France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Disparu il y a 30 ans dans le trouble d'une époque qui est marquée par une volonté de renouvellement, il y a des figures qui demeurent et continuent de peser sur la vie politique française malgré leur absence. François Mitterrand, président de la République de 1980 à 1995, est certainement l'une d'entre elles, personnalité tour à tour, honnie ou mythifiée. Tout a été dit sur le parcours de cet homme qui a porté pour la première fois de la 5e République la gauche au pouvoir. Pourtant, sa capacité à unir les partis de gauche ou sa pratique du pouvoir en période de cohabitation pourrait éclairer d'un nouveau jour notre vie politique contemporaine et son histoire lors de la Seconde Guerre mondiale, sa responsabilité dans le génocide des Tutsis au Rwanda, son rapport au capitalisme en font par ailleurs une figure difficile à revendiquer par la gauche elle-même. Alors que reste-t-il du mitterrandisme et qu'est-ce que le mitterrandisme? On y viendra. Un invité ce soir pour nous éclairer, Pierre-Emmanuel Guigaud. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en histoire à l'université Paris-Est Créteil, spécialiste d'histoire politique et de la communication. Vous avez coécrit avec Judith Bonin une bibliographie intitulée Mitterrand, à paraître le 13 janvier, donc qui est apparu aux presses universitaires de France. Et à mes côtés, le plaisir du mercredi, Julien Bisson. Bonsoir Julien.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1 et vous m'accompagnez dans cette interview. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
Ça me fait beaucoup de peine, vraiment. J'aimais beaucoup François Mitterrand, figurez-vous. Jamais j'ai voté pour lui, mais c'était un homme formidable.
C'est un génie politique pour moi, mais certaines choses étaient contestables.
C'est un personnage qui a duré, qui n'a pas été très logique avec ses idées. Mais enfin, l'un dans l'autre, c'est un grand président. Vous voyez, je suis très équivoque dans mes réponses. Parce que je crois que les Français sont aussi équivoques dans leurs pensées à ce sujet.
Ben c'est quelqu'un qui va manquer. Je crois que c'est un des grands hommes d'État qu'a eu la France, comme a été De Gaulle, comme a été, je sais pas, Clémenceau. Mitterrand, c'est un des grands.
Ah, mais c'était, comme journaliste, c'était quand même un gars. Pour la première fois, il a permis à la gauche d'arriver au pouvoir. Ça, c'est quand même paraît très important.
C'est un homme très représentatif d'une certaine forme de... d'intelligence française, enfin. Raffinée, intelligente, un peu arrogante sur le plan intellectuel, comme nous le sommes volontiers, nous les Français. Il sera dans le dictionnaire, comme il le voulait.
Témoignage de Français lors de l'annonce du décès de l'ancien président François Mitterrand. Il est évidemment dans le dictionnaire, mais vous lui consacrez également, Pierre-Emmanuel Guigaud, une biographie, je le disais, intitulée Mitterrand. Vous semble-t-il aujourd'hui que la mémoire de Mitterrand continue de vivre dans le spectre politique, dans l'opinion publique, ou bien cette mémoire est-elle en train peu à peu de s'effacer, de disparaître ?
Alors de disparaître, non, elle est même très vive. Il suffit de voir un peu tous les textes qui sont parus pour le 30e anniversaire de son décès le 8 janvier. Donc cette mémoire, elle est très vive. Après, elle serait sans doute différente. Elle est sans doute différente de ce qu'elle était en 96. Là, les personnes, le micro-trottoir qu'on a entendu à cette époque-là, je pense qu'il ne serait pas exactement le même aujourd'hui. Peut-être plus critique à voir. Ça serait intéressant d'ailleurs de le refaire pour comparer les deux époques. Déjà parce que quand on interviewe les gens sur quelqu'un qui vient juste de décéder, forcément, on a des choses qui sont très laudatives. Parce qu'il y a l'émotion de l'instant.
Et notamment cette dame qui le trouvait formidable, mais qui n'avait jamais voté pour lui.
Tout à fait, oui. C'était assez étonnant, ce monsieur qui disait qu'il incarnait quelque part une forme de culture française et qui ne semblait pas pour autant être un mitterrandolâtre. Donc oui, il y a ce côté, comme disaient les Romains, des morts, on ne dit rien, on ne dit que du bien. Là, aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et on a un regard qui est plus critique, peut-être aussi plus neutre à l'égard d'une personnalité qui, comme vous l'avez dit, est extrêmement complexe.
Julien Bisson.
Et pourtant, Pierre-Emmanuel Guigaud, dès 1995, pendant la campagne présidentielle, on se souvient du droit d'inventaire réclamé par Lionel Jospin, qui était candidat, alors que François Mitterrand était encore président de la République. Est-ce que ça veut dire que, dès cette époque-là et jusqu'à aujourd'hui, la mémoire du mitterrandisme est une mémoire pas forcément facile à gérer pour la gauche ?
Alors pour la gauche, effectivement, et c'est d'ailleurs amusant de voir que dans la campagne de 95, c'est plutôt la droite qui semble vouloir amadouer François Mitterrand, qui est encore au pouvoir à ce moment-là. Jacques Chirac le courtise beaucoup, il est très bien reçu à l'Élysée. Et quand François Mitterrand va à l'hôtel de ville de Paris, ils ont un entretien qui dure 2 heures le 14 juillet. Et Édouard Balladur aussi a des bonnes relations, cultive des bonnes relations comme Premier ministre avec François Mitterrand. Donc effectivement, c'est plutôt la gauche. Alors il faut dire que quand vous essayez de succéder à quelqu'un, Il faut toujours essayer de faire l'inventaire de celui-ci, se démarquer de celui-ci. Nicolas Sarkozy le fera à l'égard de Jacques Chirac, Georges Pompidou l'avait fait à l'égard du général de Gaulle. Donc c'est quelque chose d'assez courant. Mais effectivement, on a une gauche qui doit faire, avec un bilan qui est énorme, 14 ans de pouvoir, qui doit d'un côté s'en revendiquer, elle ne peut pas faire autrement. Et on a vu que pour ces commémorations du 30e anniversaire, les principaux leaders de la gauche ont quand même essayé de dire quelque chose de François Mitterrand. Olivier Faure a sorti un petit opuscule, il y a eu des tweets, il y a eu des discours. Mais voilà, c'est une personnalité qui est complexe et pour le PS actuel, il n'est pas forcément évident de s'en revendiquer.
Justement, sur le PS actuel, sur le Parti Socialiste Contemporain, comment ces figures, ces visages, vous avez mentionné Olivier Faure, on pense également à François Hollande, comment ces personnalités mobilise-t-elle la mémoire de François Mitterrand ? Est-ce qu'il la torde ou est-ce qu'il l'épouse tout entière ?
Je pense que pour François Hollande, il y a moins de problèmes parce qu'il est d'une autre génération. Il a connu François Mitterrand. Il a été à l'Élysée comme conseiller. Par la suite, il a été député dans sa majorité. Donc, il l'assume totalement. Et d'ailleurs,
il lui doit une part de sa carrière, pratiquement.
Tout à fait, tout à fait. Et en 2012, il s'était placé dans ses pas. Hein. Il était le deuxième François à devenir président socialiste. Et il limitait même dans ses meetings. Il limitait son style oratoire. Ça avait beaucoup fait parler à cette époque-là, voire même son style vestimentaire. Donc, il se situe dans ses pas, et c'est toujours le cas aujourd'hui, il était le premier à aller sur sa tombe le 8 janvier. Pour les dirigeants du Parti Socialiste actuel, donc notamment Olivier Faure et les autres cadres du Parti Socialiste, c'est différent déjà parce qu'ils sont plus jeunes. Alors Olivier Faure a connu François Mitterrand à une époque où il était le dirigeant du club Forum, qui était le club des jeunes rocardiens. Donc déjà, il vient d'un autre courant du PS, ce qui est le cas de beaucoup de dirigeants actuels, et en plus de ça, la majorité d'entre eux sont d'une autre génération qui n'a pas connu François Mitterrand, qui s'est plutôt engagé au moment du 21 avril 2002, c'est-à-dire de la défaite de Lionel Jospin et de l'arrivée de l'extrême droite au second tour. Donc pour eux, François Mitterrand, c'est une figure certes tutélaire, mais un petit peu lointaine.
Julien Bisson.
Il est une autre figure qui était dans le Parti Socialiste et qui ne l'est plus et qui a connu François Mitterrand, c'est Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que lui-même, comment se positionne-t-il vis-à-vis de la mémoire ou de la personne de François Mitterrand ?
Alors c'est assez intéressant parce que, en fait, c'est un peu aux antipodes entre ce que pense sa base électorale de François Mitterrand et ce que lui-même en pense. Lui-même, son discours est très laudateur. Il a fait un tweet le 8 janvier pour se revendiquer de François Mitterrand, dire la filiation de celui qu'il appelle le vieux. Hein. Donc il y a un côté presque un peu filial à l'égard du président de la République pour un Jean-Luc Mélenchon qui veut le pouvoir, hein, qui se prépare à nouveau à être candidat et qui donc assume de vouloir exercer le pouvoir comme François Mitterrand, d'être celui qui va ramener la gauche au pouvoir. C'est sans doute très différent pour sa base électorale, et militante, qui est à des années-lumière, puisqu'elle est beaucoup plus jeune, et qu'elle voit sans doute en François Mitterrand, quelque part, tous les travers de la gauche qu'elle ne souhaite pas reproduire. Donc c'est intéressant de voir cet écart, ce dissensus.
Le 13 juin 1971, la voix de François Mitterrand, il s'exprimait au congrès d'Épinay.
Celui qui n'accepte pas la rupture, la méthode, ça passe ensuite. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, politique ça va de soi, c'est secondaire, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti Socialiste.
Deux choses qui m'impressionnent, hein, la façon de mêler les registres, les tons, les différenciations de prosodie. La deuxième chose, Pierre-Emmanuel Guigot, c'est que vous le connaissez par cœur, ce discours.
Malheureusement, je le connais plusieurs par cœur. C'est terrible à dire, mais on passe pas bientôt 15 ans avec les leaders du Parti Socialiste des années 70-80 sans que ça ait des conséquences.
Il faut dire un mot sur ce congrès d'Épinay. Que représente-t-il, là aussi, dans la mémoire socialiste contemporaine ? Est-ce qu'on peut y voir, entrevoir les débuts d'un nouveau front populaire, par exemple ?
Alors, d'un nouveau front populaire.
Dans la volonté de rassembler, d'ouvrir le parti, notamment.
Alors déjà, l'union n'aura lieu qu'un an plus tard, en 72, hein, donc avec le programme commun du nom de la gauche. Mais effectivement, François Mitterrand, il est élu sur une ligne qui souhaite l'union, notamment avec les communistes. Pour les radicaux, c'est moins un souci. Mais à l'époque, c'est une rupture par rapport à ce qu'a été la stratégie de la SFIO, comme on l'appelait à cette époque-là, dans les années 50-60, en plein milieu de la guerre froide, où la SFIO était résolument atlantiste, alors que les communistes étaient résolument du côté de Moscou.
Julien Bisson.
On l'a entendu aussi dans le discours de François Mitterrand, cette mystique de la rupture avec le système établi. Est-ce qu'il serait possible de situer François Mitterrand dans le paysage politique actuel ? Est-ce qu'il serait plus ou moins à gauche que le Parti Socialiste? Est-ce qu'il serait plus ou moins à gauche que la France Insoumise? Est-ce qu'on peut arriver à le positionner?
J'ai envie de vous demander quel François Mitterrand? Puisqu'il y a eu sans doute plusieurs François Mitterrand. En tout cas, il y a eu un seul homme, mais qui a eu un parcours forcément sur une telle carrière, avec une telle ampleur, des lendemains de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à sa mort en 96. Eh bien, il a eu un parcours qui, en plus, a été sinueux. Il a été dans différents partis politiques. Il a été plus ou moins à gauche, plutôt centre-gauche, voire même centre-droit pour sa première élection. Puis après, il a été un leader, effectivement, sur une ligne plutôt radical au sein du Parti Socialiste quand il le prend en 71, un anticapitaliste, on l'entend clairement dans ce discours-là. Alors, il va le nuancer quelques années plus tard, mais sur une ligne quand même très marquée à gauche, et qui va clairement se nuancer au pouvoir. Il suffit de comparer avec son programme, enfin ce qui lui servira de programme, hein, la lettre qu'il envoie aux Français en 1988, qui est très Rospal.
Alors faisons ce bilan du mitterrandisme. Commençons peut-être par les aspects les plus positifs. C'est d'abord un bilan social majeur avec l'adoption par ordonnance de nombreuses réformes sociales dans les premières semaines de son mandat. Le SMIC augmenté de 10%, les allocations familiales et logements de 25%, les allocations vieillesse de 20%. J'en passe, c'est d'abord une politique sociale peut-être le mitterrandisme, en tout cas à cette époque.
Oui, tout à fait. Il y a la réforme des retraites aussi, hein, donc avec l'âge légal de la retraite à 60 ans.
La cinquième semaine de congés payés, évidemment, j'ai pas pu tout dire, mais...
Les 39 heures, voilà, il y a effectivement les lois Auroux. Donc c'est effectivement un bilan énorme. C'est la deuxième plus grande phase de réforme sociale du XXe siècle après celle de 45, donc de la libération, où on a eu la création de la sécurité sociale, etc., la mise en place, en fait, de notre modèle social actuel. Donc c'est un train de mesure qui est énorme, d'ailleurs en très très peu de temps, hein, puisque ça se fait en seulement quelques mois, entre fin 81 et début 82, donc ça va très très vite, à tel point que les députés socialistes se plaignent que ça va trop vite et qu'ils n'ont pas le temps de suivre. Donc voilà, c'est un train de réforme qui se veut, justement, un changement radical, parce que la gauche n'a plus été au pouvoir depuis 25 ans, et qu'il faut faire passer toutes ces réformes que les Français, que les classes populaires attendent à ce moment-là.
Julien Bisson.
Ce sont aussi de grandes réformes de société, vous l'avez dit très rapidement. Évidemment, l'abolition de la peine de mort, la dépénalisation de l'homosexualité avec la loi Forni de 1982. Est-ce que de ce point de vue-là, la mémoire de François Mitterrand, c'est aussi la mémoire de ce qui est devenu notre société en termes de réformes sociétales?
Effectivement, elle a construit en bonne partie la société qui est encore la nôtre actuelle, même si je l'avais fait pour un précédent livre sur Pierre Mauroy, donc qui est celui qui va mettre en œuvre comme Premier ministre ces politiques-là. Il y a quand même des écarts avec notre société qui sont assez grands. Déjà, à l'époque, la féminisation de la vie politique était relativement faible. Hein. Il y a peu de femmes dans la vie politique. Il y en a peu au gouvernement. Il y a Edith Cresson, notamment, mais qui n'a pas encore le rôle qu'elle aura par la suite. Donc, il y a encore... L'industrialisation est encore au cœur du projet économique, même si c'est ce gouvernement-là qui va amorcer les plans de désindustrialisation, le plan acier, notamment, en 1984. Mais voilà, il y a quand même un écart assez vaste entre ce qu'est devenu la gauche, ses préoccupations sociales et sociétales, et ce qu'elle était à l'époque.
La face plus sombre maintenant du personnage politique de François Mitterrand, on pense évidemment en premier lieu à son rapport à l'extrême droite, au rôle qu'il a pu jouer pendant la Seconde Guerre mondiale, la proximité avec le régime de Vichy, l'amitié qui ressurgira avec Pousquet, cette jeunesse imprimée par la droite conservatrice. Comment Pierre-Emmanuel Guigou, François Mitterrand va-t-il tout au long de sa vie politique, mais par la suite même à travers son héritage, tenter d'isoler ce fragment de son histoire?
Alors, isolé, jamais totalement, parce qu'en fait, c'est su de la majorité du personnel politique, en tout cas sous la 4ème République, lorsqu'il commence son ascension, il est 11 fois ministre sous la 4ème République, ça revient régulièrement. À l'Assemblée nationale, on lui envoie Francisque Mitterrand. Donc on rappelle cette décoration de la Francisque, qui était l'équivalent de la Légion d'honneur sous le régime de Vichy. Donc c'est su, le général de Gaulle lui-même le sait, et d'ailleurs en 65, il va hésiter sur l'idée d'utiliser ou pas la fameuse photo, qui sera celle de la couverture du fameux livre de Péan sur la jeunesse de François Mitterrand, une jeunesse française, on le voit avec le maréchal Pétain, qui est une autre rencontre, hein, c'est pas celle de la Francisque. Et finalement, il choisit de ne pas l'utiliser, parce qu'il sent que François Mitterrand va être amené à un avenir politique et ne veut pas abîmer trop gravement quelqu'un qui aurait cette destinée-là. Donc ça n'est jamais totalement oublié, ça l'est beaucoup plus des plus jeunes cadres du Parti Socialiste qui n'ont pas connu cette période de la guerre, qui a été trouble, et pas seulement pour François Mitterrand. Hein. On sait que le statut qui a été le sien, c'est-à-dire celui que les historiens ont qualifié de vichisto-résistant, donc à la fois vichiste pendant assez longtemps, jusqu'en 1943, et en même temps résistant à partir de fin 1942-1943, ce parcours-là, il n'est pas unique en fait. On a beaucoup de gens qui ont été dans cette situation en étant dans les deux, ce qui leur servait en même temps de protection, puisqu'ils n'étaient pas forcément traqués tout de suite. Ils pouvaient jouer sur cette ambiguïté-là, et en même temps, s'engageant pleinement pour la résistance, puisqu'il a pris des risques, François Mitterrand, dans la résistance.
Il n'est pas unique, c'est une chose, mais il est méconnu, vous nous dites, des cadres actuels du parti, des cadres plus jeunes, ce parcours de vichisto-résistant ?
Alors, actuel, aujourd'hui, je pense que tout le monde sait que François Mitterrand a été dans le cadre du régime de Vichy. Non, je parle des cadres du Parti Socialiste dans les années 70-80. Les plus jeunes, ceux qui étaient adolescents pendant la guerre, par exemple Pierre Mauroy, Michel Rocard, eux ne savaient pas. Et donc quand ça va éclater en 94, avec le livre de Pierre Péan, qui a d'ailleurs plus ou moins été voulu par François Mitterrand, eh bien à ce moment-là, ça va faire grand bruit, et toute cette génération-là va se trouver choquée.
Julien Bisson.
L'un des reproches qui lui est parfois fait, c'est aussi d'avoir servi de marchepied à l'extrême droite, notamment avec l'élection à la proportionnelle, à la législative de 1986, qui ont permis l'élection de 35 députés du jeune Front National au Palais Bourbon. Est-ce que c'est un bilan qui... Enfin, est-ce que ça vient entacher son bilan, ce rapport à l'extrême droite, et la montée de l'extrême droite tout au long de ces deux septennats?
Alors ça, c'est quelque chose que, en tant qu'historien et à travers les archives, on peut un peu plus relativiser. C'est vrai que ça a beaucoup été utilisé, à droite d'abord, à gauche aussi, pour dire, voilà, François Mitterrand aurait favorisé, par le passage à la proportionnelle, eh bien, 33 députés à l'Assemblée nationale en 1986. Déjà, la proportionnelle est dans le programme du Parti Socialiste durant toutes les années 70. C'est dans le programme commun, c'est dans les 110 propositions, et donc c'est quelque chose qu'ils vont faire comme ils l'avaient promis. Après, ils le font à ce moment-là, à un moment particulier, où ils sentent que les législatives vont être perdues pour atténuer la défaite. Ça crée d'ailleurs des remous, tous les socialistes ne sont pas d'accord. Michel Rocard démissionne en 85, considérant que c'est une porte ouverte au Front National. Pour François Mitterrand, c'est plus ambigu. On l'a aussi beaucoup accusé d'avoir favorisé la visibilité dans les médias de Jean-Marie Le Pen, notamment en favorisant son invitation à l'heure de vérité. Là, je suis allé voir une bonne partie des archives de la présidence de la République qui portent sur cette période, et j'ai rien qui permette de corroborer cette idée-là. Et j'ai interviewé par ailleurs les cadres de l'heure de vérité de l'époque, enfin ceux qui sont encore vivants à l'heure actuelle, et ne corroborent pas du tout cette hypothèse-là. Ils invitent Jean-Marie Le Pen parce qu'ils savent que ça va faire le buzz et que c'est une personnalité à un moment donné où il n'a pas encore fait les 10% aux européennes de 84.
On poursuit Pierre-Emmanuel Guigaud dans cette litanie de reproches. On reproche également à François Mitterrand d'avoir œuvré pour le tournant de la rigueur, plus que d'avoir œuvré d'ailleurs, d'avoir initié ce tournant de la rigueur de 1983. Là aussi, quelle marque cela laisse-t-il dans l'héritage du mitterrandisme ?
Alors aujourd'hui, les historiens n'utilisent plus en fait ce terme de tournant de la rigueur. Il y a eu un ouvrage auquel je renvoie de Frédéric Bozo qui est sorti il y a quelques mois et qui fait vraiment le tour de cette question-là, avec un ouvrage vraiment ambitieux qui a vu vraiment toutes les archives, celles de Pierre Bérégovoy, celles des Visiteurs du Soir, et qui montre clairement que, il y a des évolutions politiques, il y a des évolutions économiques. Ce qui est fait en 82-83 avec les plans de rigueur, ça n'est pas ce qui est fait en 1981. Mais pour autant, dès 81, ils sont conscients que la situation économique est critique et que ça ne va pas être libéré de l'argent de tous les côtés pour le donner en français. En réalité, c'est plus complexe que ça. Et dès octobre 1981, Jacques Delors dit « il faut faire une pause, on ne pourra pas aller plus loin ». Effectivement, c'est pris en compte nettement plus clairement à partir de juin 82 avec la première dévaluation et le premier plan de rigueur, puis suivi en mars 83. Donc s'il y a eu un tournant...
Je me permets de vous couper juste sur ce point-là, du point de vue de la sociologie administrative. Les sciences sociales montrent bien qu'il y a eu notamment un renouvellement au sein des cabinets, que le personnel politique qui entourait les ministres de 1980-83, le personnel qui était aussi à l'Élysée en 1980-83, n'est plus le même à partir de cette seconde date, et qu'il y a peut-être du point de vue là aussi de la sociologie administrative, non pas un tournant de la rigueur, mais un tournant au moins dans les personnes qui ont été mobilisées.
Sur les proches conseillers, en tout cas du président de la République ou du Premier ministre, c'est globalement les mêmes personnes. On a une jeune génération en fait d'énarques qui sont des militants au Parti Socialiste et qui restent les cadres structurants. Pour les conseillers économiques de François Mitterrand, par exemple, c'est François Stas qui vient du courant rocardien et qui est le principal conseiller économique avec Jacques Attali, avec d'autres intervenants, bien entendu. Donc ce pôle-là ne change pas radicalement, peut-être pour après le reste des cabinets ministériels. Non, en tout cas, s'il y a un tournant réel en 83, en mars 83, c'est dans la tête de François Mitterrand. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément favorable à ce deuxième gros plan de rigueur voulu par Jacques Delors et par son Premier ministre Pierre Mauroy. Mais dans la balance, il a deux choses. Soit sortir du SME, c'est-à-dire... système monétaire européen, effectivement. Amorcer un coup violent dans la construction européenne qu'il veut pourtant relancer. Ou alors appliquer cette politique de rigueur. Et il choisit l'Europe et la rigueur.
Reproche suivant, Julien Bisson.
Oui, autre question qui occupe la mémoire du mitterrandisme, c'est sa politique africaine. Que reste-t-il aujourd'hui quand on pense au mitterrandisme et notamment de l'action de la France au Rwanda? Est-ce que ça, là aussi, ça vient entacher sa mémoire?
Alors effectivement, c'est aujourd'hui ce qui est le plus controversé hein, dans son bilan. La grande mutation et la rupture totale avec la France-Afrique que certains espéraient en 1981 n'a pas eu lieu. Et d'ailleurs, ça se voit, c'est que le Premier ministre de la coopération qui est nommé, eh bien, il ne va pas faire long feu, il va partir au bout d'un an, justement parce qu'il sent les désaccords, et il sent que François Mitterrand veut gérer lui-même, avec ses plus proches conseillers, cette question pour laquelle il a une attention forte. Ça a été bien montré, je pense notamment à ma collègue co-autrice, hein, Judith Bonin, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, et qui a retrouvé même un carnet de voyage de François Mitterrand en Afrique, et qui révèle toute la passion que François Mitterrand cultive dès la fin des années 40 pour ce continent, pour sa population et puis pour ses dirigeants aussi. Donc voilà, il y a des liens qui ne vont pas, ça n'est pas la grande rupture. Quelque part, ce qu'on appelle la France-Afrique, en tout cas des liens, vont perdurer durant toute cette présidence et même à La Bolle en 90 où il dit que ça va changer, qu'il va y avoir une démocratisation obligée, ça ne va pas être suivi de conséquences gigantesques.
Pour finir, Pierre-Emmanuel Guigou, avec le souffle mérité, la marque du mitterrandisme sur la ville, sur l'architecture, à travers cette interview donnée à Bouillon de Culture, évidemment à Bernard Pivot, c'était en 1995.
On sent très bien que quand Paul Guimard dit vous voulez griffer le temps, ça veut dire laisser votre griffe, laisser votre marque de bâtisseur.
Bon, tout ça, oui, c'est vrai, mais en vérité, les choses ne se passent pas exactement comme cela. Je ne suis pas l'auteur de ce monument. En réalité, sauf pour le Grand Louvre et pour le Dôme des Invalides, les décisions sont prises par des jurys.
Oui.
Il y a des règles très strictes. On ne peut donc pas dire qu'il y a un style Mitterrand.
Est-ce que c'est pas dommage? Parce que
ça m'est arrivé de regretter. Ah, oui. Ça, c'était des sursauts d'orgueil ou de vanité. Mais je trouvais dommage de pas pouvoir. Mais je pouvais pas faire comme Louis XIV ou comme Louis XV. Hein. Oui. Puis je n'avais pas le moyen. Puis c'était pas conforme à la loi. Et c'était des sommes importantes. Je n'avais pas à décider tout seul de tout ce que l'on en ferait. Donc c'est le style d'une époque.
Je vous coupe, Pierre-Emmanuel Guigou, vous étiez en train d'imiter François Mitterrand à l'instant. Je reviens sur l'architecture et sa marque dans l'urbanisme, sa griffe, comme dit Bernard Pivot. C'est quelque chose qui reste au vu, au su de tous les Français et notamment de tous les Parisiens.
Oui, alors là, faut voir absolument le film L'Inconnu de la Grande Arche, petite minute promo, mais moi j'ai adoré ce film, qui parle justement de ce François Mitterrand, de ses grands travaux, parfois avec le côté un peu grandiloquent.
L'histoire de cet architecte danois qui a pensé et mené les travaux de cette Grande Arche.
Tout à fait, avant de se retourner, enfin je ne veux pas dévoiler la fin du film, mais voilà, c'est effectivement, ça représente assez bien, je trouve, François Mitterrand, c'est évidemment le Louvre aussi, donc c'est toute une série d'œuvres et une volonté, mais qui recoupe sa vision culturelle en fait, de la grandeur de la France.
Julien Bisson.
On a beaucoup parlé du mitterrandisme sans à la fin finalement le définir. Aujourd'hui, rétrospectivement, 30 ans après sa mort, ce serait quoi le mitterrandisme ?
Alors évidemment, pour retracer un tel fil rouge hein, sur une vie aussi longue à travers deux régimes qui sont très différents, la 4e et la 5e, le passage, comme je le disais tout à l'heure, du centre-gauche à la gauche socialiste en revenant dans une gauche, on va dire, plus, enfin qui s'accommode en tout cas du capitalisme, évidemment, il y a eu des changements idéologiques profonds. Clairement aussi, parce que François Mitterrand, ça n'est pas un idéologue. C'est quelqu'un qui est d'abord mu par la conquête du pouvoir. Et c'est là où, quelque part, il rejoint un Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est ça son ambition principale, c'est d'amener la gauche au pouvoir, et lui-même aussi, par la même occasion.
Mais de quoi parle-t-on alors du point de vue des catégories en sciences sociales lorsqu'on parle de mitterrandisme?
Alors qu'est-ce qui reste effectivement au-delà de tout ça? Un républicanisme, l'attachement très fort à la République et à ses institutions. Et ça, vous avez parlé des cohabitations, mais ça on le voit clairement qu'il a un attachement à une lecture qui lui est propre des institutions, avec la prééminence présidentielle. Il va d'ailleurs reprendre un certain nombre de choses qui viennent du général de Gaulle. Il y a aussi une certaine politique étrangère. On a beaucoup parlé de gaullo-mitterrandisme, c'est-à-dire qu'il a repris là aussi les grands axes de la politique étrangère de la France, une certaine neutralité à l'échelle internationale, l'importance de la dissuasion nucléaire.
Une forme d'indépendance.
On le retrouve, une forme d'indépendance, on le retrouve effectivement chez lui. Et puis l'attachement à l'Europe, ça c'est vraiment l'un des combats de sa vie, hein, de 1948. Il est là au premier congrès fondateur de la Haye, jusqu'à ses derniers jours, hein, et notamment ça va culminer avec la coopération franco-allemande, le couple franco-allemand.
En quelques mots, Pierre-Emmanuel Guigou, y a-t-il du mitterrandisme dans Emmanuel Macron ?
Alors, sur la stratégie politique et la volonté de conquête du pouvoir, c'est très clair. D'ailleurs, il a essayé de s'inspirer de l'exemple mitterrandien. En 2022, justement, il a été un de ceux, plutôt en 2021, à l'approche de 2022, il a été un de ceux qui ont rendu un hommage appuyé à François Mitterrand. Donc ça, c'est clair. Sur l'exercice du pouvoir, jupitérien, remettre les horloges à l'heure, tout ça, c'est très mitterrandien.
Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel Guigaud, d'avoir parlé, tenté de définir le mitterrandisme. Vous y êtes parvenu, d'ailleurs. Julien Bisson, je me tourne vers vous. Si l'on se procure l'hebdomadaire Le 1 cette semaine, qui trouvera-t-on ?
Eh bien, on y trouve l'historien américain Timothy Snyder qui nous offre 20 leçons contre la tyrannie face aux attaques contre la démocratie. On a un grand poster à afficher avec ces 20 leçons qui sont valables outre-Atlantique comme par chez nous.
Poster magnifique, je dois le dire. On va l'accrocher dans le bureau de questions du soir. Merci à tous les deux d'être venus au micro de France Culture. Et merci à celles et ceux qui ont fait cette émission à mes côtés. Rodi Eken, Bruno Barada, Bertie Bourdon à la réalisation. Fan Montet et à la technique, il y avait Dali Yaha en première partie et Monsieur Auger en seconde.